Chapitre 33e. Après le départ de sa gouvernante, Mademoiselle de Beauménil continua donc d'écrire son journal ainsi qu'il suit. Pour bien comprendre ces nouveaux événements, il faut revenir sur le passé, chère maman. Le lendemain de mon arrivée chez mon tuteur, je suis allé à l'église avec Mademoiselle Helena. Je me recueillais dans ma prière, en songeant à toi, ma mère, lorsque Mademoiselle Helena m'a fait remarquer un jeune homme qui priait avec ferveur au même hôtel que nous. Ce jeune homme, je l'ai su plus tard, se nomme M. Célestin de Macreuse. L'attention de Mademoiselle Helena avait été attirée sur lui, me dit-elle, parce qu'au lieu de s'agenouiller comme tout le monde sur une chaise, il était à genoux sur les dalles de l'église. C'était aussi pour sa mère qu'il priait, car nous l'avons ensuite entendu demander au prêtre qui vint faire la quête de notre côté une nouvelle neuvaine de messe à la même chapelle pour le repos de l'âme de sa mère. En sortant de l'église, et au moment où nous allions prendre de l'eau bénite, M. de Macreuse nous en a offert en nous saluant, car il nous précédait au bénitier. Plusieurs pauvres ont ensuite entouré ce jeune homme. Il leur a distribué une abondante aumône, en leur disant d'une voix émue, « Le peu que je vous donne, je vous l'offre au nom de ma pauvre mère qui n'est plus. » Priez pour elle. À l'instant où M. de Macreuse disparaissait dans la foule, j'aperçus M. de Maillefort. Entrait-il dans l'église? En sortait-il? Je ne sais. Mademoiselle Helena, l'apercevant en même temps que moi, apparut surprise, presque inquiète de sa présence. En revenant à la maison, elle m'a plusieurs fois parlé de M. de Macreuse, dont la piété paraissait si sincère, la charité si grande. Elle ne connaissait pas ce monsieur, me dit-elle, mais il lui inspirait beaucoup d'intérêt parce qu'il semblait posséder des qualités presque introuvables chez les jeunes gens de notre temps. Le lendemain, nous sommes retournés à l'église. Nous avons de nouveau rencontré M. de Macreuse. Il a fait ses dévotions à la même chapelle que nous. Cette fois, il semblait si absorbé dans sa prière que, l'office terminé, il restait à genoux sur la pierre qu'il touchait presque du front, tant il semblait accablé, anéanti par la douleur. Puis, s'affaissant bientôt sur lui-même, il est tombé à la renverse, évanoui, et on l'a transporté dans la sacristie. « Malheureux jeune homme, m'a dit Mademoiselle Helena, combien il regrette sa mère. Quel bon et noble cœur il doit avoir. » J'ai partagé l'attendrissement de Mademoiselle Helena, car mieux que personne je pouvais compatir aux souffrances de M. de Macreuse, dont la figure douce et triste révélait un profond chagrin. Au moment où la sacristie s'ouvrait au bedeau qui emportait M. de Macreuse, M. de Maillefort, qui se trouvait sur son passage, se mit à rire d'un air ironique. Mademoiselle Helena parut de plus en plus inquiète de rencontrer une seconde fois M. de Maillefort à l'église. « Ce Satan, me dit-elle, ne peut venir dans la maison de Dieu que pour quelques maléfices. » Dans l'après-midi de ce jour, Madame de la Roche-Aiguë m'a décidé, malgré ma répugnance, à venir faire une promenade avec elle et une de ses amies. Nous avons été prendre Madame la Duchesse de Sainte-Terre, que je ne connaissais pas, et nous sommes allés aux Champs-Élysées. Il y avait beaucoup de monde. Notre voiture s'étant mise au pas, Madame de la Roche-Aiguë a dit à Madame de Sainte-Terre, « Ma chère Duchesse, est-ce que ce n'est pas Monsieur votre fils que je vois là-bas à cheval ?»« En effet, c'est Gérald, » a répondu Madame de Sainte-Terre en lorgnant de ce côté. « J'espère bien qu'il nous verra, » a ajouté Madame de Mirecourt, « et qu'il viendra nous saluer. »« Oh !» a repris Madame de la Roche-Aiguë, « Monsieur de Sainte-Terre n'y manquera pas, puisque Madame la Duchesse est avec nous. »« Je dis heureusement et je me trompe, » a ajouté Madame de la Roche-Aiguë, « car la présence de Madame la Duchesse nous empêche de dire tout le bien que nous pensons de Monsieur Gérald. »« Oh, quant à cela, » a répondu Madame de Sainte-Terre en souriant, « je n'ai aucune modestie maternelle. » Jamais je n'entends dire assez de bien de mon fils. Vous devez pourtant, madame, a répondu Madame de Mirecourt, être bien satisfaite à ce sujet, si avide que vous soyez. Mais à propos de Monsieur de Sainte-Terre, a dit Madame de Mirecourt à Madame de la Roche-Aiguë, savez-vous pourquoi Monsieur de Sainte-Terre s'est à 18 ans engagé comme simple soldat? Non, a répondu Madame de la Roche-Aiguë. Je sais en effet que Monsieur de Sainte-Terre partit comme soldat, malgré sa naissance, a gagné ses grades et sa croix sur le champ de bataille, au prix de nombreuses blessures, mais j'ignore pourquoi il s'est engagé. « Madame la Duchesse, » ajoutait Madame de Mirecourt en s'adressant à Madame de Senneterre, « n'est-il pas vrai que votre fils a voulu partir comme soldat parce qu'il trouvait lâche d'acheter un homme pour l'envoyer se faire tuer à sa place ?»«
Il est vrai, » répondit Madame de Senneterre, « telle est la raison que mon fils nous a donnée, et il accomplit son dessein malgré mes larmes et les prières de son père. »
« C'est superbe, » dit Madame de la Rochegue. Il n'y a au monde que M. de Senneterre capable de montrer une résolution si chevaleresque.
Et par ce seul fait, on peut juger de la générosité de son caractère, ajouta Madame de Mirecourt.
Oh, je puis dire avec un juste orgueil qu'il n'est pas de meilleur fils que Gérald, dit Madame de Senneterre.
Et qui dit bon fils, dit tout, reprit Madame de la Rochegue.
J'écoutais en silence cette conversation, partageant la sympathie qu'inspirait aux personnes dont j'étais accompagné, la généreuse conduite de M. de Senneterre, s'engageant comme simple soldat, plutôt que d'envoyer quelqu'un se faire tuer pour lui. À ce moment, plusieurs jeunes gens passaient au pas de leurs chevaux en sens inverse de nous. Je vis l'un d'eux s'arrêter, retourner son cheval et venir se placer à côté de notre calèche qui allait aussi au pas. Ce jeune homme était M. de Senneterre. Il salua sa mère. Madame de la Rochegue me le présenta. Il me dit quelques paroles gracieuses, puis il fit en causant plusieurs tours de promenade auprès de nous. Il ne passait pour ainsi dire pas une voiture élégante, sans que les personnes qui l'occupaient n'échangeassent quelques signes amicaux avec M. de Senneterre, qui me parut inspirer une bienveillance générale. Pendant l'entretien qu'il eut avec nous, il fut très gai, légèrement moqueur mais sans méchanceté. Il ne railla que des ridicules évidents pour tous et qui passèrent devant nos yeux. Peu de temps avant que M. de Senneterre nous quittât, nous fûmes croisés par une magnifique voiture à quatre chevaux, marchant au pas comme nous, et dans laquelle se trouvait un homme devant qui un grand nombre de personnes se découvraient avec déférence. Cet homme salua profondément M. de Senneterre, qui, au lieu de lui rendre son salut, le toisa du plus dédaigneux regard. « Ah, mon Dieu, M. de Senneterre, lui dit Madame de la Rochegue tout ébahie. « Mais c'est Monsieur du Tilleul qui vient de passer. Eh bien, madame, il vous a salué. »
« C'est vrai, j'ai eu ce désagrément-là, » répondit Monsieur de Senneterre en souriant.
« Et vous ne lui avez pas rendu son salut ?»«
Je ne salue plus Monsieur du Tilleul, madame. »
« Mais tout le monde le salue. »
« On a tort. »
« Pourquoi cela, Monsieur de Senneterre ?»«
Comment, pourquoi ?»«
Et son aventure, avec madame de... » Puis, s'interrompant, sans doute gêné par ma présence, M. de Senneterre reprit en s'adressant à Madame de la Rochegue. « Connaissez-vous sa conduite avec certaines marquises ?»«
Sans doute. »«
Eh bien, madame, un homme qui agit avec cette cruelle lâcheté est un misérable, et je ne salue pas un misérable. » »«
Pourtant, dans le monde, on continue de l'accueillir à merveille, » dit Madame de Mirecourt.
« Oui, parce qu'il a la meilleure maison de Paris, » reprit M. de Senneterre. Et qu'on veut aller à ses fêtes. Aussi l'on y va, ce qui est une indignité de plus.
Allons, monsieur Gérald, dit madame de Mirecourt, vous êtes trop rigoriste.
Moi?
Reprit monsieur de Senneterre en riant. Moi, rigoriste? Quelle affreuse calomnie.
Je veux vous prouver le contraire. Tenez.
Regardez bien ce petit brougame vert qui vient là et...
Gérald! S'écria vivement Madame de Senneterre en me désignant du regard à son fils, car j'avais machinalement tourné la tête du côté de la voiture signalée par M. de Senneterre et occupée par une très jeune et très jolie femme qui me parut le suivre des yeux. À l'interpellation de sa mère et au regard qu'elle jeta sur moi, M. de Senneterre se mordit les lèvres et répondit en souriant « Vous avez raison, ma mère. Les anges seraient trop malheureux s'ils apprenaient qu'il y a des démons. » Sans doute, cette sorte d'excuse m'était indirectement adressée par M. de Senneterre, car deux de ces dames me regardèrent en souriant à leur tour et je me sentis très embarrassé. L'heure étant venue de quitter la promenade, Madame de Senneterre dit à son fils « À tout à l'heure. Vous dînez avec moi, n'est-ce pas, Gérald ?»«
Non, ma mère, et je vous demande pardon de ne pas vous avoir prévenu que je disposais de ma soirée. »
« C'est très malheureux pour vous. » reprit Madame de Senneterre en souriant, « car moi, j'ai disposé de vous ce soir. »«
À merveille !» ma mère répondit affectueusement M. de Senneterre. j'écrirai un mot pour me dégager, et je serai à vos ordres. » Et après nous avoir salués, M. de Senneterre partit au galop de son cheval, qu'il montait avec une aisance et une grâce parfaites. J'ai fait cette remarque et elle m'a attristé, car la tournure de M. de Senneterre m'a rappelé la rare élégance de mon pauvre père. Autant qu'il m'a paru, dans cette entrevue, et quoiqu'il m'eût très peu adressé la parole, M. de Senneterre doit avoir un caractère franc, généreux, résolu et une tendre déférence pour sa mère. C'était d'ailleurs ce que pensaient ces dames, car jusqu'au moment où nous les avons quittées, elles n'ont pas cessé de faire l'éloge de M. de Senneterre. Le lendemain et le jour suivant, nous avons revu M. de Macreuse à l'église. Sa douleur paraissait non moins profonde, mais plus calme ou plutôt plus morne. Deux ou trois fois, le hasard voulut qu'il jetât les yeux sur nous, et je ne sais pourquoi mon cœur se serra, en comparant ses traits d'une douceur si mélancolique, son extérieur humble et timide à l'aisance cavalière de M. le duc de Senneterre. Le surlendemain de notre promenade aux Champs-Élysées, j'accompagnais mon tuteur au jardin du Luxembourg ainsi que je le lui avais promis. Nous visitions les serres et les belles collections de rosiers, lorsque nous avons été abordés par un ami de M. de la Roche-Aigu. Il me l'a présenté sous le nom de M. le baron de Raville ou d'Uraville, je crois. Ce monsieur nous a accompagnés pendant quelques instants, puis, tirant sa montre, il dit à M. de la Roche-Aigu « Pardon de vous quitter si tôt, M. le baron ?» Mais je tiens à ne pas manquer la fameuse séance. Quelle séance ? A demandé mon tuteur. Comment, monsieur le baron, vous ignorez que monsieur de Mornan parle aujourd'hui ? Il serait possible. Certainement, tout Paris est à la chambre des pairs, car monsieur de Mornan y parle. C'est un événement. Je le crois bien. Un si admirable talent, a repris mon tuteur. Un homme qui ne peut pas manquer d'être ministre un jour ou l'autre. Ah, quel malheur de n'avoir pas été prévenu. Je suis sûr, ma chère pupille, que cette séance vous eût intéressé, malgré les folies que vous a contées Madame de la Roche-Aigu. C'est pour le coup qu'elle m'eût accusé de guet-apens, si j'avais pu vous faire assister à la séance d'aujourd'hui. Mais si mademoiselle en avait le moindre désir, a dit M. de Raville à mon tuteur, je suis à votre disposition, monsieur le baron. Justement, lorsque je vous ai rencontré, j'attendais une de mes parentes et son mari. Ils ne viendront probablement pas. Je m'étais procuré des billets de la tribune diplomatique, et s'ils pouvaient vous être agréables. Ma foi, qu'en dites-vous, ma chère pupille ? Je ferai, monsieur, ce qu'il vous plaira. Et d'ailleurs, il me semble, ajoutai-je, par égard pour mon tuteur, qu'une séance de la chambre des pairs doit être en effet fort intéressante. Eh bien, j'accepte votre offre, mon cher monsieur de Raville, reprit vivement monsieur de la Roche-Aigu. « Et vous aurez la rare et bonne fortune, ma chère pupille, » ajouta-t-il, « de tomber justement un jour où doit parler M. de Mornan. C'est une faveur du sort. » Nous hâtâmes le pas pour gagner le palais du Luxembourg. Au moment où nous sortions des quinconces, j'ai vu de loin M. de Maillefort qui semblait nous suivre. Cela m'a surprise et inquiété. Comment ce méchant homme se rencontre-t-il presque toujours sur nos pas, me suis-je dit ? Qui donc pouvait ainsi l'instruire de nos projets ? La tribune diplomatique où nous avons pris place était déjà remplie de femmes très élégantes. Je me suis assis sur l'une des dernières banquettes entre mon tuteur et M. de Raville. Celui-ci ayant entendu quelqu'un dire à côté de nous qu'un célèbre orateur, il ne s'agissait pas de M. de Mornan, devait aussi parler dans cette séance, M. de Raville a répondu qu'il n'y avait pas d'autre orateur célèbre que M. de Mornan, et que cette foule n'était venue que pour l'entendre. Presque aussitôt, celui-ci est monté à la tribune et l'on a fait un grand silence. J'étais incapable de juger et en grande partie de comprendre le discours de M. de Mornan. Il s'agissait de sujets auxquels je suis tout à fait étrangère. Mais j'ai été frappé de la fin de ce discours, dans lequel il a parlé avec une chaleureuse conviction du triste sort des familles de pêcheurs, attendant sur le rivage un père, un fils, un époux, au moment où la tempête s'élève. Le hasard voulut que M. de Mornan, en prononçant ces touchantes paroles, se tourna du côté de notre tribune. Sa figure imposante me parut émue d'une profonde commisération pour le sort des infortunés dont il paraissait prendre la défense. « Il est admirable, » dit à demi-voix M. de Raville en essuyant ses yeux, car il semblait vivement ému. Monsieur de Mornant est sublime, s'écria mon tuteur. Il suffit de son discours pour faire améliorer le sort de 1000 familles de pêcheurs.
D'assez nombreux applaudissements accueillirent la fin du discours de Monsieur de Mornant. Il allait quitter la tribune lorsqu'un autre pair de France, d'une figure maligne et caustique, dit de sa place d'un air railleur.
Je demande à la Chambre la permission de poser une simple question à Monsieur le comte de Mornant avant qu'il ne descende de ses tribunes, et que sa généreuse et soudaine compassion pour les pêcheurs de morue ne soit conséquemment évaporée.
Si vous m'en croyez, monsieur le baron, dit aussitôt monsieur de Raville à mon tuteur,
nous quitterons tout de suite la tribune de peur de la foule. Monsieur de Mornant parlait, tout le monde va vouloir s'en aller car il n'y a plus rien d'intéressant.
Monsieur de la Rochegue m'offrit son bras, et au moment où nous quittions la salle, nous avons entendu des éclats de rire universels.
Je vois ce que c'est, dit monsieur de Raville.
Monsieur de Mornant écrase sous ses sarcasmes l'imprudent qui avait eu l'audace de vouloir lui poser une question, car lorsqu'il le veut, ce diable de monsieur de Mornant a de l'esprit comme un démon.
Mon tuteur m'ayant proposé de reprendre notre promenade et d'aller jusqu'à l'observatoire, j'y consentis.
Monsieur de Raville nous accompagnait.
« Monsieur le baron, dit-il à mon tuteur, avez-vous remarqué madame de Brétigny qui est sortie presque en même temps que nous ?»«
La femme du ministre, non, je ne l'avais pas remarqué, répondit mon tuteur.
« Je le regrette pour vous, monsieur, car vous eussiez vu l'une des meilleures personnes que l'on puisse rencontrer.
On n'a pas idée de l'admirable parti qu'elle s'est tirée de sa position de femme de ministre, de tout le bien qu'elle fait, des injustices qu'elle répare, des secours qu'elle obtient. » C'est une véritable providence.
Cela ne m'étonne pas, reprit mon tuteur. Dans une condition pareille à celle de madame de Brétigny, on peut faire tant de bien car...
Et s'interrompant, mon tuteur dit vivement à monsieur de Raville.
Ah mon Dieu, est-ce que ce n'est pas lui là-bas, dans cette allée retirée? Tenez, il se promène en regardant les fleurs.
Et qui cela, monsieur le baron?
Monsieur de Mornant, voyez donc.
Si fait, répondit monsieur de Raville.
C'est lui.
C'est bien lui.
Il vient oublier son triomphe de tout à l'heure, se délasser de ses grands travaux politiques en s'amusant à regarder des fleurs.
Cela ne m'étonne pas, car avec son talent, son génie politique, c'est l'homme le meilleur, le plus simple qu'il y ait au monde, et ses goûts le prouvent bien. Après son admirable succès, que recherche-t-il? La solitude et des fleurs.
Monsieur de Raville, « vous connaissez monsieur de Mornant ?» lui demanda mon tuteur.
« Très peu. Je le rencontre dans le monde. »«
Mais enfin, vous le connaissez assez pour l'aborder, n'est-ce pas ?»«
Certainement. »«
Eh bien, allez donc le féliciter sur le succès qu'il vient d'obtenir. Nous vous suivrons et nous verrons de près ce grand homme. »« Que dites-vous de notre complot, ma chère pupille ?»«
Je vous accompagnerai, monsieur. »« L'on aime toujours avoir des hommes qui semblent aussi distingués que monsieur de Mornant. »
Changeons alors la direction de notre marche, et guidés par monsieur de Raville, nous sommes bientôt arrivés dans l'allée où se trouvait monsieur de Mornant. Au compliment que lui adressa monsieur de Raville, et par occasion, mon tuteur, monsieur de Mornant répondit avec autant de modestie que de simplicité, m'adressa deux ou trois fois la parole avec une extrême bienveillance, et après un court entretien, nous laissâmes monsieur de Mornant à sa promenade solitaire.
« Quand on pense, dit monsieur de Raville, qu'avant 6 mois peut-être cet homme de forme si simple gouvernera la France. »«
Dites donc de formes excellentes, mon cher monsieur de Raville, reprit mon tuteur. Monsieur de Mornant a tout à fait des manières de grand seigneur. Il est à la fois affable et imposant.
Dame, ce n'est pas un de ces freluquets imbéciles comme on en voit tant, qui ne songent qu'à leurs cravates et à leurs chevaux. »
Et ces freluquets-là seront généralement peu appelés à gouverner la France, reprit monsieur de Raville.
Je dis gouverner, parce que monsieur de Mornant n'accepterait pas un ministère en sous-ordre.
Il sera chef du cabinet qu'il formera.
Eh mon Dieu, dit monsieur de la Rochegue, il n'y a pas encore 6 semaines que l'on parlait de lui dans les journaux comme président d'un nouveau ministère.
Dieu le veuille, monsieur le baron, Dieu le veuille pour le bonheur de la France, pour le repos du monde.
Ajouta d'un ton profondément pénétré monsieur de Raville, qui nous quitta bientôt.
en rentrant avec mon tuteur, je pensais que c'était une bien belle et bien haute position que celle d'un homme qui pouvait, comme M. de Mornant, avoir une si grande influence sur le bonheur de la France, sur la paix de l'Europe et sur le repos du monde. Voilà, ma chère maman, dans quelles circonstances j'ai rencontré pour la première fois messieurs de Macreuse, de Sainte-Terre et de Mornant. Telles ont été les suites de ces rencontres.